Donc moi, je suis vraiment de la très très vieille génération, hein, puisque j'ai commencé avec le MLF en 1970, en août 1970, c'était vraiment les débuts, et que j'ai été au point de départ des études féministes avec la création du groupe d'études féministes de Jussieu, de Paris 7, en 1975. Que j'ai fait mes travaux, j'étais donc étudiante, oui, je devais être en troisième cycle quand même à ce moment-là. Donc tous les travaux universitaires que j'ai faits depuis 69, donc les études féministes n'existaient pas, mais et c'était déjà quand même ces thèmes-là. Et j'ai fait ma thèse, évidemment, ma thèse a été vraiment une des toutes premières. Que j'ai soutenu en 79. Donc là, les études féministes existaient, mais il n'y avait pas beaucoup de thèses encore.
Les Fugies, c'est une association qui a été créée en 2003 par des personnes qui étaient en doctorat ou en postdoc, enfin non titulaire, et qui faisaient des études de genre. À l'époque, il y avait très peu de personnes en fait qui faisaient des études féministes de genre ou sur les sexualités. Et elles ont ressenti le besoin très très fort de pouvoir en parler entre elles, notamment pour s'auto-former, mais aussi pour parler de leurs conditions de travail, de ce que c'est que d'être par exemple féministe à l'université, etc.
Et après, si vous voulez créer votre atelier FIJI dans votre fac, vous êtes plus que les bienvenus. Je pense que je peux dire ça aussi, il y a une petite aide financière aussi qui est essayée d'être donnée par l'association FIJI nationale. Donc ça peut être aussi un atout par rapport à vos facs. Et puis ça permet de créer des liens aussi au niveau national.
L'Institut du genre, c'est un groupement de recherche qui a été créé par le CNRS en 2012 et qui fédère, qui rassemble une trentaine d'établissements de recherche et d'institutions d'enseignement supérieur ayant une activité sur le genre, au moins minimale. Ce site comprend un outil tout à fait intéressant qui est le répertoire des thèses sur le genre. C'est-à-dire que nous répertorions toutes les thèses qui sont soutenues. C'est un outil pour les doctorants, doctorantes, ceux qui veulent travailler sur un sujet, mais c'est aussi un moyen d'étudier comment les thèses sur le genre sont devenues une véritable nouvelle manière de faire de la recherche qui prend la forme d'un mouvement collectif. Un lien particulier est toujours établi avec les mobilisations sociales. Bon, ce qui est un peu une caractéristique héritée des recherches féministes. Hein. Bon.
Donc du coup, on est un groupe de jeunes chercheuses féministes lyonnaises et on a organisé cette année un colloque qui s'intitulait « Théoriser en féministe à Lyon », qui est un colloque international sur 3 jours, colloque qui a donné lieu à la constitution d'un groupe qui va être un petit peu plus permanent. Parce qu'on considère que c'est important que la recherche féministe se développe aussi en province. Est-ce que je vous donne la parole, Anaïs?
Du coup, l'enjeu de ce colloque, c'était dans un premier temps de réunir en fait plusieurs personnes issues de disciplines différentes pour justement mutualiser les recherches. Et à terme, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un vivier déjà de jeunes chercheurs et chercheuses dans notre région qui pouvaient parler de ces problématiques-là et qui avaient vraiment une matière à créer un réseau pour faire avancer la recherche féministe effectivement en province, parce que beaucoup de personnes souffrent en fait de cette espèce de cloisonnement habituel qu'il y a dans la recherche française, qui fait que beaucoup de recherches se passent sur Paris, et malheureusement pour des questions de précarité, de mobilité, de possibilité, c'est pas toujours faisable de venir jusqu'à Paris pour faire vivre en fait cette recherche féministe qui doit justement savoir s'emparer un petit peu de tous les combats de réappropriation et la réappropriation de l'espace, la réappropriation de la parole est aussi très importante. C'est pour ça que c'est porté par principalement des jeunes chercheurs et des jeunes chercheuses.
Ça serait aussi dans une idée de poursuivre un petit peu le mouvement qui avait été initié par le premier colloque des études de genre en France il y a quelques années, du coup qui va aussi se passer à Angers prochainement. Mais du coup, d'une certaine manière, c'est représenter, disons, les pôles lyonnais, se fédérer aussi entre nous, parce que des fois, il faut attendre des événements comme ceci pour qu'on arrive à se rencontrer, alors qu'on est dans une université qui sont très proches. Donc voilà, c'est aussi l'occasion pour nous. Bon, ici, voilà, on vient pour présenter un peu ce qu'on fait, pour discuter, pour rencontrer des gens qui sont dans la même ville que nous. Mais on espère pouvoir, à terme, avoir un pôle un peu plus dynamique, du coup, dans la région lyonnaise.
Bah, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais rajouter. Bah, peut-être tout simplement, en fait, je pense qu'on a été contente et surprise, en fait, de voir à quel point on avait réussi à créer un groupe de jeunes chercheuses liées pour des raisons à la fois académiques et amicales, et en fait à réussir à créer un groupe de personnes qui pouvaient travailler ensemble, en fait, et de découvrir à quel point c'était bien, et non seulement bien agréable, mais aussi plus riche de travailler à plusieurs et de penser à plusieurs. Et enfin, c'est vraiment une chouette expérience d'avoir réussi à l'échelle locale, on va avoir réussi à créer un réseau comme ça, quoi.
Alors, à ce congrès, ma participation, c'était de montrer l'apport de l'Afrique et l'apport des féministes africaines à la réflexion. Mais je crois que c'est important de le faire, parce que le féminisme, je pense qu'il faut l'éclater. Il faut sortir de quelque chose qui est également un gros mot, du féminisme blanc. Mais moi, je refuse de l'appeler racisé, parce qu'il est racisé quand on est dans une majorité de blancs. Mais quand, comme moi, je vis dans une majorité de noirs, le racisé, à mon avis, réduit mon espace d'expression et mon espace de lutte. Donc j'aurais voulu qu'on ne parle que dans mon espace, ce ne soit plus en termes de conflit, mais en termes de ce que ça signifie pour moi d'être féministe en Afrique. Quels sont les enjeux qui sont soulevés? Quels sont les savoirs que l'on construit ou que l'on peut déconstruire? Quelles sont les pratiques qui se dégagent de cet espace féministe? Parce que pour moi, le référent n'est plus ce qui est colonial ou décolonial, mais ce qui est important, c'est comment, moi, en Afrique, je peux construire un savoir et des pratiques qui me permettent de m'exprimer en tant que tel et en tant que moi dans mon espace. Et ça, je crois que ce que j'ai essayé dans différents colloques, d'ailleurs, colloques féministes francophones auxquels j'ai participé, mais dans celui-ci, ce que je voulais apporter, c'est une voix africaine, voix VOX, mais une voix VOE, parce que nous avons des problèmes communs, mais nous avons des problèmes également différents, parfois antagoniques. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse cesser de nous invisibiliser. C'est comme un des séminaires de dit, comment faire pour déseffacer le féminisme ici et dans le reste du monde.
Je me suis intéressée donc aux monographies de femmes du Maghreb, car il y a un aspect de non-reconnaissance. Elles ne sont pas déjà reconnues en tant que pionnières dans leur domaine, en tant qu'artistes, en tant qu'écrivaines, en tant que danseuses, artistes, chanteuses, etc. Mais aussi leur savoir et leur contribution à la cause féministe sous la colonisation et après les indépendances des pays du Maghreb a été complètement mis de côté. Donc pour certaines, elles sont mortes sans reconnaissance, complètement inconnue du public algérien maghrébin, mais aussi oublié en France malgré des publications qui ont plus ou moins marqué leur époque. Je parle des années 40 évidemment et 50. Donc ce qui m'anime, c'est de les remettre au goût du jour, de les faire lire, de faire connaître ce qu'elles ont fait et de montrer quel est l'apport féministe pour leur époque, mais aussi qu'il y a des questions dont elles ont traité et qui restent encore aujourd'hui d'actualité.
Bonjour, je m'appelle André-Marie Diagne, bonne année de naissance, et je suis maître de conférence à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et pendant près de 40 ans, j'ai formé les professeurs de français à l'École normale supérieure. Et j'ai aussi lancé pas mal d'associations de professeurs de français, notamment au Sénégal. Et actuellement, je suis la coordonnatrice nationale du réseau des professeurs de français pour l'éducation des filles et la formation des femmes en Afrique, REPROFEFA. C'est avec ce réseau que je me retrouve pour la première fois à un congrès du CIRF, le 8e, à Nanterre. Et je suis très contente de retrouver Paris, bien sûr, avec son métro un peu fatigant. Mais surtout, de me souvenir de tout ce qui a été mené comme combat dans cette université. Et parallèlement à ce que nous faisons à Dakar, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait que les professeurs de français, donc la francophonie, s'engagent dans l'éducation des filles en Afrique pour résorber le retard que cette éducation avait connu. Et donc, nous avons réussi à amener l'ensemble des professeurs de français à intégrer la perspective genre dans leur enseignement, dans leur vision des choses. Et je peux vous dire aujourd'hui que quand je suis en classe, je ne peux pas regarder des élèves, des étudiants sans avoir ce regard genré, comme on dit. Je voudrais aussi dire que je suis auteur d'un recueil de nouvelles que j'ai intitulé « La fileuse d'amour ». La fileuse d'amour en hommage à ma mère et à toutes ces femmes africaines qui travaillent dans le silence, qui sont des éducatrices hors pair, qui sont des travailleuses et dont on ne parle jamais.
Alors moi, je travaille tout particulièrement sur éduquer à l'égalité des sexes, à l'école et en formation de manière générale. Et donc, en fait, ma problématique, c'est d'essayer de trouver des moyens qui aident les enfants, comme les adolescents, comme les adultes, de se déprendre du genre. Ce qui me paraît vraiment essentiel, c'est de se dire que nous tous et toutes, on a été élevés et socialisé avec ce système qu'on appelle le genre, qui est un système de normes de sexe hiérarchisant, qui crée des inégalités entre les individus suivant que ce sont des hommes ou des femmes et en défaveur des femmes. Et donc, en fait, je pense qu'on est tous sexistes. La conséquence de cette socialisation, c'est qu'on est tous et toutes sexistes et qu'on doit tous et toutes faire un travail, d'abord reconnaître qu'on est sexiste, voir où, chez nous, joue le sexisme et voir comment est-ce que chacun et chacune d'entre nous, on peut à notre échelle, ce qui n'empêche pas après un travail collectif, mais comment est-ce qu'on peut à notre échelle lutter contre le sexisme et donc contre cette emprise du genre dans laquelle on est.
Donc j'ai un parcours assez particulier puisque je suis actuellement chercheuse en sciences de l'éducation, mais ma formation initiale c'est la philosophie. Et dans mon parcours philosophique à Paris, j'ai été amenée à graviter dans des groupements, des collectifs féministes étudiants qui étaient en train de se mettre en place à l'intersection entre la Sorbonne où j'étais et Jussieu où les études féministes étaient en train de se développer. Et donc pendant longtemps finalement j'ai beaucoup plus travaillé dans le champ. J'ai différencié mon parcours académique et puis mon parcours militant féministe, puisque par ailleurs je militais à Paris. Et ces dernières années, je dois dire que j'ai cherché à ne plus faire le partage, qui n'avait pas de sens hein, finalement, entre mon activité de chercheuse et mon activité de militante. Et à la faveur justement de la jonction entre ces deux activités, j'ai été amenée à essayer de rendre visible dans le champ de l'éducation qui était le mien des perspectives qui n'étaient pas du tout travaillées. Alors d'abord, ce que je dois dire, c'est qu'au niveau du champ de l'éducation, en tous les cas en France, les approches féministes sont très peu développées. Hein, on est très très peu nombreux. On se connaît toutes et tous, bien évidemment. Et c'est plus à l'international, finalement, qu'on a de la matière. Hein. Au niveau francophone, c'est beaucoup des Québécoises, et notamment Claudie Solard, hein, qui nous a apporté de la matière. L'enjeu, bien évidemment, c'est d'arriver à plus de justice sociale. Donc on a organisé l'année dernière un colloque avec des collègues de deux SP, l'SP de l'Académie de Paris et l'SP de Créteil, autour des pédagogies critiques. Et donc les pédagogies critiques, ce sont ces pédagogies critiques dont se sont inspirées beaucoup les pédagogies féministes, et notamment Bell Hooks. Et à la suite de ce colloque, on a créé un institut qu'on a intitulé Bell Hooks, Paulo Freire. Et l'objet de cet institut, c'est vraiment de faire connaître les pédagogies critiques radicales, hein, qui interrogent à la fois le sexisme, le racisme, le classisme. Et l'objectif, c'est même beaucoup plus ambitieux, ce n'est pas nécessairement porté par moi, mais j'ai des collègues qui ont cet objectif, c'est vraiment de pouvoir articuler une théorie critique de l'éducation qui ait toute sa pertinence pour le contexte franco-français.
Alors, moi, ma spécialité, c'est donc le genre en éducation, et plus particulièrement dans l'enseignement des sciences et techniques. Alors, sur cette dimension, sur les sciences et techniques, j'ai vu quand même un changement extraordinaire. Entre le moment où j'ai soutenu ma thèse, ici d'ailleurs à Nanterre, en gros il y a 10 ans, où tout le monde se moquait vraiment éperdument de ce que je pouvais faire. Les femmes en informatique, quand je rencontrais des informaticiens, ils me disaient en substance que bon, ce serait mieux qu'il y ait plus de femmes en informatique, mais elles n'aiment pas, on ne va pas les forcer, quoi, on n'y peut rien. Nous, on est ouverts, hein, juste elles ne veulent pas venir. Là, on est 10 ans plus tard. Il y a 2 ans, j'ai été invitée par la Société des informaticiens de France, où la personne qui m'invitait me disait « C'est dramatique le peu de femmes qu'il y a en informatique, il n'y a aucune raison. Qu'est-ce qui fait, dans nos pratiques, qu'est-ce qui fait qu'on est discriminant et qui font qu'elles ne viennent pas ?» Ah ben oui, là, le discours a complètement changé. Là, on peut commencer à réfléchir, on peut commencer à travailler ensemble. Et dans l'éducation, la question du genre est devenue un sujet. Alors, ok, moi je milite pour la formation des enseignantes et des enseignants à la question du genre de manière obligatoire dans tous les lieux de formation des professionnels de l'enseignement. On n'y est pas, hein. On y est plutôt pas mal dans mon université à Genève. En France, c'est très très compliqué. Mais on a fait un progrès, c'est devenu un sujet. On a suffisamment de force pour qu'on ait pu créer l'association de recherche pour le genre en éducation-formation, où on est maintenant plusieurs chercheuses et chercheurs à pouvoir discuter de ces questions de genre en éducation-formation. Mine de rien, depuis le premier CIRF que j'ai pu faire à Toulouse au début des années 2000, quand même, les études de genre ont réussi à s'institutionnaliser et à prendre leur place à la fois à l'université, mais aussi auprès de plus en plus de praticiens et de praticiennes. Et peut-être même c'est là où elles sont le plus importantes, parce que pour le coup, on voit une pression des étudiants et des étudiantes intéressés par des sujets qui est bien supérieure à l'intérêt que l'université ou l'institution peut avoir à développer nos études.
Alors le MAJ, c'est le réseau historique, je dirais, qui a travaillé sur le travail et le genre. Hein, MAJ veut dire marché du travail et genre. C'est un réseau qui a été créé par Margaret Mariani. Il est international et pluridisciplinaire. Et donc, dans le cadre du CIRF, nous avons sauté sur l'occasion pour essayer de mettre en évidence ou de travailler de nouvelles problématiques qui nous semblaient émergentes au sein des études sur le travail et le genre. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons organisé 6 sessions de travail et de dialogue dans un format particulier où nous avons mêlé à la fois des interventions d'universitaires, mais également de responsables associatives ou de responsables syndicales, et ce qui a beaucoup apporté au débat. Pour parler un petit peu des thématiques qui ont animé nos débats, nous avons commencé par faire une mise en perspective croisée en fait autour de l'égalité professionnelle, en mettant une focale à la fois sur les gagnantes de l'égalité professionnelle qu'on commence à bien connaître maintenant autour des femmes cadres et de tous les dispositifs spécifiques qui sont mis en place dans certaines grandes entreprises pour ces femmes cadres, Et nous avons croisé ces visions-là avec, quelque part, les oubliés ou les laissés pour compte de ces politiques d'égalité professionnelle, et donc toutes les autres catégories de femmes pratiquement, avec là des focales particulières, notamment pour les métiers du care et les salariés des métiers de service, hein, comme les secrétaires ou les personnels des EHPAD. Voilà, qui subissent le poids des réformes et qui ont à la fois une dégradation de leurs conditions de travail et aussi souvent une précarisation de leurs conditions de travail. Finalement, les femmes qui arrivent à s'inclure dans ces métiers du numérique, alors bah, ça recoupe beaucoup de métiers, je ne vais pas entrer dans les détails, mais se retrouver face à des problématiques, notamment de harcèlement, qui semblaient beaucoup plus exacerbées que dans les métiers dits féminins. Ou alors elles se retrouvent systématiquement en bas de la hiérarchie, même quand elles sont ingénieures informatiques. Elles ne sont pas vraiment dans la programmation, mais elles sont plutôt dans des emplois qui symboliquement sont considérés voilà, comme étant de formation finalement. Moins pointu hein, que les métiers de la programmation. Donc nous avons aussi eu un focus sur les phénomènes de cybersexisme. Hein, donc là, avec des problématiques intéressantes, on commence à avoir quelques données, notamment nos collègues responsables d'associations voilà, traitent aussi des cas et essaient d'inventer des solutions, mais c'est quand même pas simple. Alors, ensuite, le dernier point qui a été abordé, qui est aussi une question émergente, une question nouvelle autour des enjeux de genre et travail, c'est la question des conséquences des violences conjugales sur la sphère professionnelle, hein, et notamment sur l'activité professionnelle des femmes et leur émancipation. Donc là aussi, il y a quelques recherches, et il y a eu notamment dans les débats des réflexions croisées, notamment entre la Belgique, les expériences aux États-Unis ou les expériences de nos collègues du Québec, voilà, qui nous montrent que c'est un champ d'investigation très intéressant à explorer. Et il y a quelques entreprises en France notamment qui commencent à financer les formations qui vont dans ce sens-là. Mais bon, c'est un peu toujours la même réalité, hein. C'est-à-dire qu'il y a l'enjeu de former de façon un peu plus récurrente et structurelle l'ensemble des managers pour savoir comment gérer ces situations de violence, hein, puisque nos collègues nous ont expliqué que même les managers qui vont essayer de en tout cas de prendre en considération ces problématiques-là dans la sphère du travail peuvent avoir des comportements totalement contre-productifs. Voilà, et on retombe finalement dans des nouveaux mécanismes de violence qui sont particulièrement néfastes. Donc en fait, tous ces exemples, donc il y a eu quand même plusieurs heures hein, de débats et de présentations, nous ont permis de montrer de façon saillante à quel point quand même le marché du travail de façon assez récurrente, on le sait, est en train de se polariser, mais en tout cas, les formes de polarisation de la place des femmes sur le monde du travail prenaient de nouveaux visages, et donc de fait, de nouveaux enjeux s'en échappaient. Et voilà, c'est autant de pistes de recherche pour les 20 prochaines années, je dirais.
J'ai travaillé donc dans le cadre de ma thèse sur la place des ouvrières dans les discours autour de l'égalité professionnelle. Effectivement, il y a une actualité absolument essentielle dans la mesure où, on le sait bien, l'égalité professionnelle n'est pas atteinte. Et je crois qu'en réalité, ce qui se posait dans les années 70 à propos des ouvrières, donc le fait qu'il y ait une déqualification de leur travail, enfin, qu'on considère que leurs compétences sont des compétences naturelles, la dextérité, l'habileté, ce qui fait qu'on ne les paye pas à la mesure de leur qualification, puisqu'on considère que donc ce n'est pas une qualification, que c'est naturel, il me semble que ces enjeux se posent aujourd'hui dans le travail, en particulier du service à la personne, mais pas seulement, dans tous ces métiers de femmes précaires, de femmes de classe populaire.
Alors, mon nom est Rachel Chagnon, je suis professeure au département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal et je dirige l'Institut de recherche et d'études féministes à l'Université du Québec à Montréal. Donc, je suis au CIRF 2018, d'une part parce que mon institut organise un colloque cette semaine, d'ailleurs qui a lieu aujourd'hui, jeudi, sur la parité. Nous avons donc plusieurs séances où nous discutons des enjeux parité, diversité. La raison pour laquelle on trouvait le thème de la parité important à ce moment-ci, c'est que bien qu'on ait eu l'impression pendant longtemps que la présence des femmes dans l'espace public était de plus en plus assurée, en politique, au Québec et au Canada, on a assisté ces dernières années à un recul de la représentation des femmes en politique. Les partis politiques ont cessé de faire des efforts pour recruter des femmes, ce qui a donné vraiment lieu à une perte au niveau de la représentation des femmes en politique. Et ce qu'on remarque aussi, que ce soit dans les milieux associatifs ou dans les milieux politiques, les femmes peinent à se faire leur juste place. Donc, si on regarde les milieux, les directions des milieux associatifs, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, sur les conseils d'administration, dans les exécutifs, les hommes restent largement majoritaires. C'est la même chose en politique. Et on en est vraiment à un moment où on veut un peu reprendre ce discours-là, qui a été un discours quand même important des féministes des années 70, le remettre à l'ordre du jour. Et aussi, inclure dans le discours sur la parité l'enjeu de la diversité, qui est toute la question de la représentation des personnes racisées, des personnes minorisées, parce que malheureusement, le discours sur la parité a souvent été monopolisé par les blancs hétérosexuels appartenant à la majorité. Donc, c'était vraiment un discours entre femmes blanches hétérosexuelles et hommes blancs hétérosexuels. Et les autres groupes ou les personnes appartenant à plusieurs groupes ont été un peu mis de côté. Et là, on est à un moment où on veut justement réévaluer comment on peut porter le discours de la parité dans un contexte de diversité pour éviter aussi que le concept de la diversité soit instrumentalisé pour faire disparaître la question femme. Parce que ce qu'on a remarqué de la part des politiciens et des dirigeants, c'est qu'ils vont recourir au concept de la diversité, en fait, pour faire plus de place aux hommes. Alors, on fait pas rentrer les femmes dans les instances, on fait rentrer les hommes issus de la diversité. Et ce qu'on voit, c'est que les femmes sont toujours les éternels oubliés de l'équation. Donc, et aussi, ce qu'on constate, c'est que les milieux féministes plus majoritaires ont fait un peu défaut de faire leur juste place aux femmes minoritaires, ce qui nous empêche d'avoir une réponse adéquate, justement, à cette dépolitisation de l'idée de la diversité. Alors, on doit apprendre à faire plus de place aux femmes issues de la diversité dans nos rangs, et ensuite, pour être plus forte, pour porter un discours politique de la diversité dans, justement, le politique, les espaces socio-économiques. Et c'est un peu le thème du colloque auquel moi je participe.
Je suis Marie-France Joachet. Je suis une militante féministe depuis 32 ans en Haïti et je suis en train de faire une expérience au sein de l'organisme électoral chargé d'organiser et de gérer les élections en Haïti depuis 2 ans. Donc, c'est une expérience qui m'a beaucoup marquée. Je voudrais écrire justement sur cette expérience et la partager avec d'autres, une expérience de femme qui occupe un poste de pouvoir important dans un pays comme Haïti. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, mon sujet, ça s'appelle « Femmes de pouvoir, femmes au pouvoir, résistant aux assauts ». Donc, c'est ça le titre de ma communication. C'est comme un témoignage de mon vécu depuis ma désignation par le mouvement féministe haïtien au sein du Conseil électoral. C'est également un vécu par rapport et aux actes politiques que je pose en tant que femme au pouvoir et exerçant un pouvoir extrêmement important et voir aussi l'interaction qu'il y a entre moi qui suis désignée par le secteur femme et en même temps les organisations féministes. Donc, je n'ai pas seulement pris, je ne suis pas la seule. Il y a 2 autres femmes avant moi, donc j'en ai profité également pour voir l'interaction en général qu'il y a entre ces femmes, donc ça veut dire 3 femmes depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, essayer d'étudier et d'analyser et cette interaction entre le mouvement féministe haïtien et ces femmes. Le fait que la société haïtienne reconnaît le droit à la citoyenneté des femmes, mais quand les femmes exercent et cette citoyenneté, il y a toute une intolérance par rapport aux femmes. Il y a tous les stéréotypes sexistes qui sont développés par rapport à ces femmes pour les décourager à occuper des postes politiques, des postes décisionnels, pour leur montrer qu'elles ne sont pas légitimes et dans cet espace et de pouvoir, et pour les traiter de toutes sortes d'injures et pour vraiment les décourager.
J'ai travaillé sur les femmes et le handicap, et en particulier sur la parole des femmes handi-moteurs sur les questions de sexualité et l'existence de cette parole au sein d'une association, puisque j'ai fait mon stage à l'APF, l'Association des paralysés de France. Voilà. Ce qui est ressorti de cette recherche, c'est que les voix des femmes handies sont des voix invisibilisées, qui ont du mal à émerger à la fois au sein des espaces dédiés au handicap, au sein des espaces dédiés au féminisme et aux femmes, et au sein de la société dans son ensemble. Donc c'est une des oppressions spécifiques qui sont à la fois dues au genre, au capacitisme et parfois à la race, à la classe. Donc des oppressions imbriquées qui demandent des dispositifs, la mise en place de dispositifs adaptés à ces oppressions. Dans le cadre de mon stage de mémoire et donc de mon enquête de terrain, j'ai créé et j'ai animé un groupe de parole dédié aux femmes handies et aux questions de genre, de sexualité, de handicap. Et alors, ça n'a pas été facile, c'est des dispositifs compliqués à mettre en place. Et avant tout parce que les femmes handies rencontrent beaucoup de problèmes de mobilité et d'accessibilité. Donc mobiliser des femmes handies qui ont accès à des transports, qui ont du temps aussi pour accéder à la parole, c'est difficile, mais c'est un dispositif qui a plutôt bien marché, qui a fait émerger à la fois les problématiques communes aux femmes qui ont participé au groupe et aussi des discours positifs sur le handicap, sur la féminité et le handicap, donc des discours qui permettent de modifier les représentations sociale et culturelle du handicap et de la féminité. Mais la question du territoire et la discontinuité dans l'accès au territoire pour les femmes handies reste compliquée pour mettre en place des dispositifs d'accès et de recueil de leurs paroles.
Carmen Riau, féministe, lesbienne, brésilienne, anthropologue. Je travaille à l'Université de Florianópolis. Et j'appartiens au Institut des études des genres. Et nous, à Florianópolis, nous organisons chaque 2 ans un grand colloque féministe. C'est le plus grand colloque féministe en Amérique latine. Et un des plus grands au monde, je peux dire, parce que ça réunit 5 000, 6 000 participants chaque année. Et cette année, l'année dernière, les colloques étaient organisés en collaboration avec les World of Women, Mundo das Mulheres. Et on a eu 11 000 participantes. C'était très, très bien. On a fait une marche pendant les colloques. Parce que la situation politique au Brésil se dégrade un peu partout dans le monde, mais spécialement dans notre pays après un coup d'État qui a eu lieu et qui a destitué notre présidente élue, Dilma Rousseff. Alors on passe pour un moment où le féminisme et les voix féministes, les voix LGBTTT, c'est un moment très important pour qu'elle soit entendue.
Et on est un groupe de chercheurs à l'université brésilienne, université publique. Et en ce moment, on est en attaque de notre droit. Et on est ici surtout, pas exactement pour simplement présenter notre question, notre problème, mais surtout pour connecter le problème qu'on vit là-bas avec le problème que le français et les françaises vivent ici. Alors la tentative, c'est de rencontrer les connexions entre les luttes, les résistances, ça c'est plus important pour nous, la continuité de cette partenariat plus que simplement présenter quelques questions. C'est pour ça que je remercie beaucoup cette opportunité que le congrès a ouvert pour nous.
J'ai fait tous les cirques sauf celui à Dakar, donc j'ai vu le tout premier à l'Université Laval et j'ai vu donc l'expansion des cirques, les thèmes, les débats qui étaient propres à chacun. Et moi, ma contribution au cirque, ça a toujours été d'apporter une visibilité lesbienne. Donc dès le tout premier à l'Université Laval, j'avais fait une proposition à une époque où il y avait très très peu de visibilité lesbienne dans les colloques de femmes, colloques féministes. Je suis issue d'un passé de militante lesbienne et féministe, mais d'une chose à l'autre, ma position professionnelle s'est transformée. Je voulais faire de la recherche et le champ de recherche aussi s'est transformé. Et puis pour moi, c'était important en fait de développer les études dans les universités francophones parce qu'en Amérique du Nord, le secteur des études LGBT ou queer studies est assez développé, mais il l'était beaucoup moins du côté francophone au Québec. Donc pour moi, c'était mon objectif de pousser du côté institutionnel. C'était un choix intentionnel qui avait été fait sciemment pour qu'il reste quelque chose, pour établir c'est ça, un secteur d'études. Et je pense que l'objectif est assez bien atteint, au point où moi, je pense à prendre ma retraite bientôt. Sinon, actuellement, le projet qu'on a, c'est un projet avec un ensemble de partenaires associatifs, aussi quelques partenaires gouvernementaux sur ce qu'on appelle « sa vie ». LGBTQ, c'est-à-dire savoir sur l'inclusion et l'exclusion des personnes LGBTQ. Donc, l'acronyme fait sa vie LGBTQ et c'est une recherche en partenariat. C'est un gros projet avec un important financement où on veut réfléchir à la situation actuelle. On sait qu'il y a des discriminations encore, mais ce n'est pas tous les groupes qui sont touchés également parce que je veux dire, on essaie de faire des analyses qui tiennent plus compte des inégalités liées au processus de racisation ou au statut de citoyenneté, au parcours d'immigration, au genre qu'il soit reconnu ou pas, aux inégalités de classe. Donc, on veut arriver avec des portraits plus fins et plus nuancés de la situation. Parce qu'il y a l'égalité juridique, mais bon, au-delà, il y a des inégalités qui se reproduisent. Donc, c'est ça qu'on veut creuser par une enquête, par des entrevues et aussi un volet analyse des politiques publiques.
Ce qui me tient à cœur dans ces combinaisons, justement, entre écoféminisme matérialiste et lesbianisme radical, c'est qu'en tant que... J'ai été militante antinucléaire et j'en suis partie pour des raisons d'essentialisme et un peu de lesbophobie invisibilisée. Enfin... Et après j'ai rencontré le lesbianisme radical, ce qui a été pour moi une bouffée de respiration intense. Et le fait de rencontrer les écrits de Françoise Daubonne notamment m'a permis de réconcilier un peu comme mon ancienne identité de militante antinucléaire et écologique et plutôt pour des univers alternatifs. Et le lesbianisme radical. Et c'est cette réalité, enfin, c'est ce vécu que j'ai envie de partager avec d'autres lesbiennes lors du colloque, de ce colloque lesbien, quoi.
Alors, ma participation au congrès a compris en fait trois temps. Donc, un colloque qui portait sur les transféministes, où on a abordé beaucoup de choses sur les savoirs trans notamment, mais les apports aussi des épistémologies féministes dans nos différents. Activités, tant bien de recherche mais aussi que d'engagement, c'est-à-dire de militance. Ça aussi a pris la forme d'un atelier ainsi que d'un débat. Donc il y a eu absolument trois temps. Notre présence aussi, elle était importante ici parce qu'on a pu apporter ces savoirs qui sont souvent méconnus et en partie aussi, on est venu aussi défaire tous ces imaginaires autour des identités trans Et ce n'est pas forcément toujours un travail facile, mais c'était important. Donc notre présence ici, elle est bienvenue. Je pense que c'était important, et pas que pour moi, mais aussi pour l'ensemble des intervenants, intervenantes. On a eu aussi un public qui était très concentré, qui était attentionné, qui a posé aussi beaucoup de questions, et voilà, qui nous a aussi poussé dans les questionnements, et c'est absolument très très bien de ce point de vue. Alors, une partie, l'évolution, elle se lit aussi à travers les questionnements, hein, et notamment, ça s'est vu lors du colloque, notamment du côté français, par exemple, c'est la difficulté d'exister dans l'université en tant que chercheur ou chercheuse trans, portant sur un sujet trans, et des stratégies en mettre en place, des stratégies littéralement de résistance. On voit le même questionnement a lieu avec notamment les interventions venues du Québec, mais sous une forme plus atténuée, c'est-à-dire que cette génération-là, elle arrive... le terme de masse n'est pas forcément le plus... Elle arrive en nombre, et ce nombre est très important, parce que du coup, ça crée une sorte de corps et une solidarité aussi d'ensemble qu'on n'a pas forcément en France, où les personnes se sentent très isolées les unes des autres. Cette évolution, elle marque aussi que c'est une diffusion, et on fait mieux connaître les savoirs trans, qui ne sont pas seulement que des savoirs militants, mais qui aujourd'hui donnent lieu à des recherches. Et les gens ont aussi pu exprimer leurs difficultés tant bien à faire de la recherche qu'à partager leurs données. Et donc ces espaces-là, ils sont importants, ils existent aujourd'hui, et un tel espace aurait été inimaginable il y a quelques années encore en arrière. Donc de ce point de vue-là, c'est une évolution qui est vraiment remarquable.
Alors, c'était un petit peu le thème, la raison de notre venue, et les thèmes qui ont traversé toutes les personnes trans qui intervenaient à ce congrès. Où en est la recherche vis-à-vis de nous? Alors, je vais retourner la caméra. Où est-ce qu'on est, la population trans vis-à-vis de la recherche? Jusqu'à présent, c'était un rapport hiérarchique, surplombant, pathologisant, surtout en France. Il semblerait qu'au Québec, les choses soient en tout cas un peu plus fluide, un peu plus nuancé. Il y a encore cette espèce de brutalité, de rapport brutal. En France, sur la question trans, et pour moi, outre la phase de la dépathologisation qui est loin d'être terminée, en France, pour nous, il y a la phase de la débinarisation. Alors peut-être que par rapport à cette manière de se désigner trans non-binaire, c'est peut-être générationnel, étant donné que j'ai 60 ans et que mon parcours est maintenant 30 ans en arrière. C'était ma manière à moi d'utiliser ce mot intergenre, alors qu'aujourd'hui, je pourrais presque me définir comme non-binaire. Et tout cela, il me semble que, comme la recherche n'est pas sortie de ce rapport hiérarchique entre le sujet connaissant et le sujet d'étude, voire l'objet d'étude, eh bien, la débinarisation, ça reste comme une espèce de projet ou d'utopie politique à venir, alors que c'est déjà là. La débinarisation des identités trans, non-binaires, intersexes, neuro-atypiques, c'est vraiment en cours, voire ça produit des nouveaux mots, des nouvelles manières de se définir, voire carrément des nouvelles manières de vivre tout simplement, en dehors des rapports binaires masculins, féminins ou positionnels. On a affaire à une fluidité de l'existence qui jongle avec tout ça, plutôt que de suivre ces espèces de lignes directrices homme-femme, masculin, féminin, blanc, noir, occidental, non-occidental, etc., etc.
Les enjeux féministes posés par mes recherches, c'est notamment la question de l'histoire longue des mobilisations féministes, comment comprendre les mobilisations féministes aujourd'hui, Au regard de cette histoire, comment comprendre les renouvellements générationnels, les renouvellements des thématiques? La question de la parole des femmes m'intéresse tout particulièrement en ce moment parce qu'elle pose aussi la question des possibilités d'expression médiatique des féministes. Comment Internet renouvelle les mobilisations, mais aussi reconfigure des modes d'expression qui existent depuis l'émergence des mouvements féministes au XIXe siècle. Donc ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'histoire longue des mobilisations féministes.
Et mes activités féministes datent du temps où j'étais un responsable au ministère de l'Enseignement supérieur, où j'avais eu la mission de coordonner les mouvements féministes des étudiants et des étudiantes. Donc j'ai appris à travailler avec les jeunes filles, à les organiser en association, association de femmes enseignantes, association d'étudiants. Donc c'est comme ça que j'ai été intéressée par le fait de structurer les femmes autour d'associations, les femmes comme les jeunes étudiantes. Et j'ai instauré ce que j'ai appelé podium de l'excellence féminine. C'est-à-dire que chaque année, à l'occasion du 8 mars, nous allions primer les meilleures étudiantes ou alors les enseignantes qui s'étaient distinguées par des productions ou qui avaient mené leur association, parce que beaucoup de femmes se spécialisaient dans les associations féministes qui avaient excellé dans l'organisation d'un certain nombre d'activités favorables à l'égalité des genres. Voilà comment je suis venue au mouvement féministe. Et en 1994, j'ai été à Dakar. Et là, c'est la NEF qui m'a impressionnée par son programme. Et avec la NEF, nous sommes donc en train de réfléchir sur ce qu'on appelle E-Toile, tisser la toile des réseaux féministes. Et dans ce cadre-là, je suis présidente d'une association dénommée RESFUC, c'est-à-dire réseau des femmes et chercheurs universitaires du Cameroun, qui comprend à la fois des femmes, des universitaires, des chercheurs et aussi des hommes. Voilà. Et voilà pourquoi je suis venue à Nanterre et je suis heureuse de retrouver cette université de Nanterre qui m'a accueillie quand j'étais jeune étudiante il y a de cela 50 ans.
Je suis là comme présidente du réseau universitaire et scientifique euro-méditerranéen sur le genre et les femmes, le RUSMEG. Et c'est un réseau scientifique donc, qui regroupe des universitaires, des femmes universitaires qui travaillent sur les femmes et le genre dans cette ère de la Méditerranée, et donc notamment de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de la France et de l'Espagne. On a organisé un colloque interdisciplinaire qui s'appelle Mots et mots des femmes, c'est-à-dire M-A-U-X et M-O-T-S. Et c'est un colloque interdisciplinaire parce qu'on a parlé de questions de construction symbolique, culturelle à travers la littérature et les arts, mais aussi de questions d'argent. Il y avait une partie argent, c'est-à-dire tout ce qui est un rapport avec le travail des femmes, l'héritage, qui est une question très importante maintenant, par exemple en Tunisie, etc. Donc c'était vraiment très interdisciplinaire. Et donc, à travers cette expérience que j'ai du RISMEG, j'ai constaté que travailler en réseau est très très important. C'est pas bon, c'est presque banal de dire ça. Mais ce qui est bien de ce réseau-là auquel j'appartiens, c'est qu'il y a des doctorantes et des doctorants qui y sont impliqués. Et donc, je signalerai que dans cet échange qui ne se veut pas nord-sud, parce qu'en réalité, on travaille, donc on voudrait travailler avec tous les pays du bord de la Méditerranée, et de façon transversale et aussi horizontale. Donc, dans cet échange, ce qui nous a enrichi davantage, aux profs aussi, disons, c'est ce contact humain et intellectuel avec les jeunes chercheurs, doctorantes et doctorants, et parfois masterantes et masterants aussi.
Alors, c'était un colloque sur les violences conjugales faites aux femmes, parce que je suis une militante de la Fédération Solidarité Femmes, en même temps qu'une chercheure, enseignante-chercheure, à la retraite depuis 2 ans. Et donc, on a... Comment dire ? On a constitué depuis une trentaine d'années une certaine compréhension des violences conjugales faites aux femmes. On a travaillé à les accueillir, à les recevoir, à les aider. Tout en essayant de construire une compréhension, d'explication, un accueil féministe, etc. Et en même temps, je trouve qu'on souffre d'une certaine fermeture sur nous-mêmes, aussi parce qu'on est toujours dans des soucis quotidiens, il y a une baisse des subventions, on a des problèmes de trouver des sous, et il en faut, enfin bon, etc. Accueillir les femmes, c'est très difficile. Donc il y a ce risque d'enfermement, de clôture. Et donc, on a fait un comité d'éthique et de veille scientifique qui s'occupe en particulier... L'éthique, moi, ça me plaît pas plus que ça, mais la veille scientifique, ça me paraît très important. Voilà, de réfléchir aux problèmes qui se posent, qui traversent le champ intellectuel, le champ politique, l'évolution éventuelle de nos problématiques. Tout ça est important. Donc, on a un comité qui a maintenant 5 ou 6 ans, qui est très dynamique, très, très heureux. On est très heureux de se voir 3 fois par an et de réfléchir. Et donc, on se disait, sur nos thématiques sur lesquelles on a déjà beaucoup travaillé, qu'on voulait faire un colloque. Donc, moi, quand j'ai vu l'appel du CIRF, je me suis dit, oh, le CIRF offre la logistique, c'est-à-dire se tape le boulot d'organisation, nous permettra d'inviter des personnes qui viennent de loin, qui, sans ça, on n'aurait pas les moyens de les inviter. Et nous fournira aussi des gens qui sont soucieux de nos questions et qui veulent venir entendre tout ça. C'est une très bonne synthèse de, comme on le souhaitait, hein, de pratiques de terrain et de militantisme et de recherche scientifique. Le droit, les lois ont avancé, mais il reste des obstacles considérables, aussi bien dans les lois que dans l'application, la mentalité des policiers, des magistrats, etc. Donc voilà, des avancées au niveau des lois. Au niveau de l'opinion publique, il y a toujours bien sûr des gens qui disent « mais il n'y a qu'à partir, c'est des niaises, tout ça ». Mais quand même, je pense qu'il y a une meilleure compréhension. Je pense que, voilà, il y a des nouvelles formes, hein, de sexualisation des jeunes, des jeunes filles comme objet, hein, il y a des nouvelles formes de contrôle par le téléphone portable, par Internet, par etc. Donc, on a l'impression que c'est des choses qui repoussent, hein, tout le temps. On coupe une tête, il en pousse une autre. Hein. Mais ce qui est important, je trouve, le plus de transmettre, c'est le courage. C'est la confiance dans la lutte, voilà. Et l'idée que les jeunes auront à traiter de nouveaux problèmes et qu'elles feront d'autres choses que nous. Voilà. Mais elles sont là, hein, elles sont là. Donc très bien.
Dans ce CIRF, j'ai contribué à organiser un colloque sur féminisme et militarisme, qui est, je pense, le premier dans la série de ces CIRF que nous avons organisé avec Angeliki Dronguiki. Et ça me semble vraiment très important que, dans la lignée des travaux anciens déjà, mais particulièrement nécessaires, d'André Michel, et ça me semble très important, comme française, la France étant un des pays qui produit et exporte le plus à la fois d'armes et de doctrines militaires. Donc ça paraît très important que, enfin, de manière collective, des féministes se saisissent de la question du militarisme. Donc ça a été un colloque qui a duré 2 jours et qui a été très nourri, avec des interventions très intéressantes, non seulement sur la France, mais aussi sur des pays qui achètent beaucoup d'armes à la France, comme par exemple le Brésil. Il y avait aussi la Russie. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très chouette.
On essaye de vraiment penser, est-ce que le militarisme, en tant que structure théorique, mais aussi matérielle, c'est-à-dire la militarisation, ben voilà, tout le matériel technologique, est-ce que ça, on peut l'articuler avec le féminisme, avec le lesbo-féminisme, l'hétéropatriarcat, le racisme, comment on l'articule? Il y avait déjà des féministes qui y travaillaient, mais là, on y revient. Je pense que c'est aussi un acte de résistance de dire il se passe quelque chose qui n'est pas normal, que, ben, je ne peux pas dire normal, il se passe quelque chose qui est grave et qui touche trop d'entre nous. Il faut qu'on y pense, qu'on le nomme et qu'on voit comment on peut résister. Mais déjà, il faut déjà l'analyser, déjà en parler entre nous, faire des cercles de discussion et de le voir aussi sur le quotidiennité. C'est-à-dire, par exemple, de voir avec chacune quels sont les effets quotidiens, en fait, de la matérialisation, le contrôle. D'autres, c'est leurs maisons qui sont occupées, les communautés qui sont occupées. Nos corps aussi qui sont militarisés, notre langage, nos rapports entre lesbiennes ou entre féministes. Enfin, tout ça, en fait, qu'on est en train de réfléchir. Particulièrement dans mon pays, au Brésil, où il y a vraiment un processus de militarisation et de plus en plus de violence envers les femmes, principalement les femmes noires et les femmes indigènes. Mais aussi, ce qui m'intéresse et ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a aussi beaucoup de résistance.
Donc voilà, ça c'est vraiment, si on fait, si on décrit un tableau mondial, il est assez pessimiste. Voilà, si on analyse le nombre de violences policières, les militaires, l'extraction minière, enfin tout ce qu'il y a, toute cette articulation, ce système qui nous opprime et qui opprime les autres aussi. Mais il y a aussi beaucoup de résistance de femmes. C'est aussi pour ça que je suis venue dans ce colloque, parce que c'est vraiment important de rencontrer d'autres qui pensent, qui se positionnent. Et voilà, et hier j'ai participé à la table militarisme, violence et féminisme, ce qui m'a permis déjà de rencontrer d'autres femmes qui pensent, voilà, qui réfléchissent à qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on analyse, quels sont les processus de résistance antimilitariste, non-violent, enfin il y en a plein. Mais depuis une pensée féministe décoloniale et lesbienne féministe décoloniale, et c'est pour ça que voilà, je suis venue aujourd'hui pour en rencontrer d'autres et continuer d'articuler des résistances communes.
Et mes recherches actuelles portent sur les mobilisations contre le genre, la soi-disant théorie ou idéologie du genre, un peu partout en Europe et de plus en plus aussi en Amérique latine. Et donc voilà, là ce qu'on essaye de faire, c'est à la fois de comprendre, premièrement de comprendre c'était quoi ce discours un peu étrange pour nous comme professionnels des études de genre ou comme militants des études de genre, et de comprendre comment ça a été produit, d'où ça vient. Et puis ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est essentiellement comprendre comment ça se diffuse et quelle forme ça prend dans des contextes différents. Pourquoi ça fonctionne dans un endroit ou un autre.
Donc Jocelyn Tricou, moi je suis doctorant à Paris 8 en sciences politiques et en études de genre. Et je travaille sur les questions de masculinité dans l'Église catholique, à la fois des prêtres et des mobilisations, des politiques de genre que mène l'Église, notamment contre le mariage pour tous. Voilà.
Je suis davantage intervenue sur la question des intégrismes religieux donc à l'intérieur de l'Église catholique et comment cela constitue une forme d'anti-féminisme.
Je suis en ce moment en train d'entreprendre un postdoctorat à l'Université de Genève et à l'Institut national de recherche scientifique à Montréal. Mon postdoctorat porte sur les effets de la peur sur le répertoire tactique des féministes en Suisse romande et au Québec. Et j'ai fait une thèse de doctorat aussi sur les effets de l'antiféminisme sur le mouvement féministe québécois et plus particulièrement les organisations qui militent contre les violences faites aux femmes. Et ce qui m'a intéressé, c'est de voir les types d'influences, c'est-à-dire les influences de type politique, à savoir qu'elles manquent de ressources pour, dans le fond, poursuivre leur mandat de soutien aux femmes victimes de violences. Il y a des effets aussi d'ordre organisationnel, ce qu'elles ne font plus ou comment elles ont changé leurs procédures pour s'assurer, dans le fond, de contrer l'antiféminisme. Des effets d'ordre biographique, donc une espèce de désengagement ou un engagement plus distancié pour se protéger de l'antiféminisme, etc. Et donc, dans le cadre du CIRF, je suis venue présenter l'influence du masculinisme sur leur discours, la signification, la transformation, dans le fond, qu'elles apportent à leur discours et aux significations qu'elles travaillent, le travail de signification des violences contre les femmes. Et au fait, je suis notamment ici pour sensibiliser les milieux féministes sur l'importance de traiter de l'antiféminisme lorsqu'on s'intéresse aux transformations des mouvements féministes. J'ai fait le travail pour le Québec, mais j'estime que un peu partout en France, en Belgique, en Suisse ou ailleurs, on s'intéresse aux transformations, aux modifications, aux évolutions des mouvements féministes. On parle de professionnalisation notamment, et c'est un enjeu certes, mais rarement on va s'intéresser à l'antiféminisme comme vecteur, porteur ou variable ou facteur de transformation des mouvements féministes. Et pourtant, c'est somme toute assez important si on pense notamment au discours de la symétrie de la violence, comment les féministes s'adaptent pour, dans le fond, maintenir de la crédibilité auprès des décideurs ou auprès de la population. Par exemple, elles vont s'adapter en évacuant le mot « femme » après, dans le fond, dans leur analyse des violences faites aux femmes, ils vont dire que c'est des violences contre les personnes. Et ici, personne désignant, dans le fond, un ensemble flou. Donc, on dépolitise un peu les analyses. Et c'est un exemple de transformation là, plus actuelle au niveau des discours des du milieu féministe.
Bonjour, je suis Francis Dupuy-Déry, je viens du Québec, de l'Université du Québec à Montréal. Je suis rattaché au réseau québécois en études féministes à l'Institut de recherche et d'études féministes, l'IREF, à l'UQAM. Et c'est mon troisième CIRF. Je suis allé à Lausanne et à Québec, évidemment, à Montréal plutôt. Et je viens de sortir un livre dernièrement sur la crise de la masculinité dans lequel je déconstruis cette rhétorique masculiniste, antiféministe, qui consiste à dire pour les hommes depuis au moins 500 ans et aujourd'hui partout en fait sur la planète, que les hommes souffrent, vont mal, à cause des femmes en général, à cause des féministes en particulier, à cause de ce qu'ils appellent la féminisation de la société. Donc nous n'aurions plus de modèle. Et j'essaie de démontrer qu'en fait c'est un discours réactionnaire, antiféministe et en plus qui véhicule une conception vraiment très très viriliste et stéréotypée de la masculinité.
On s'est dit qu'on avait besoin de se doter d'un outil qu'on avait envie de partager et on a créé une plateforme numérique et c'est ce qu'on a présenté tout à l'heure. Et l'idée aussi, c'était de dire que c'était important qu'on puisse réunir les différentes sources de savoir, autant universitaires qu'activistes, qu'artistiques, et de aussi réfléchir à comment on peut encore parfois les hiérarchiser, même malgré qu'on soit féministe. Donc voilà, c'était passionnant, notamment des cartographies. C'est en ce moment ce qu'on est en train de réaliser avec des archivistes, des documentalistes féministes qui nous aident à mettre, on va dire, en accès des sources indispensable dont parlait tout à l'heure Suzette, et ça s'appelle Constellation brisée. Voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir justement visibiliser et partager des parcours qui ont été trop longtemps invisibilisés. La plateforme, mais en fait, tu as plusieurs rubriques. Tu as une rubrique culture, tu as une rubrique résistance, une rubrique histoire. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va, on a mis en des liens vers des documents, vers des archives sonores, vers des archives vidéo, mais aussi vers de la fiction, vers des œuvres aussi d'activistes, par exemple de cabaret, pour montrer en fait que cette histoire, elle existe, elle est très morcelée, parcellaire. Et on a voulu donc regrouper toutes ces sources.
J'ai travaillé sur la question de la mémoire collective dans les mouvements féministes en France. Et au colloque, donc j'ai organisé, au congrès, j'ai organisé un colloque d'une journée sur le thème pratique mémorielle et engagement protestataire. Donc c'était une journée qui visait à essayer de comprendre comment est-ce que des groupes militants se saisissent de la question de la mémoire et essayent de transformer ou en tout cas d'amender le récit national réalisant des usages politiques du passé, en militant pour l'organisation de commémorations, etc. Et donc, nous avons fait deux sessions ce matin avec six interventions et cet après-midi, une table ronde dans laquelle on avait invité deux documentaristes qui ont fait des documentaires sur la question de la mémoire. Et donc, on a essayé de leur poser la question, comment est-ce qu'elles filmaient la mémoire? Voilà.
Militante aux archives recherche culture lesbienne. Et puis depuis quelques années, je participe aussi à l'archivage, au captage de manifestations féministes, d'événements lesbiennes, de rencontres qui sont déposées au Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Donc c'est mes deux activités principales et c'est à ce titre que je vais intervenir pour donc dire que l'importance de la captation, l'importance de collectage, l'importance de la diffusion aussi, c'est les deux axes de mon intervention. C'est-à-dire que non seulement il est intéressant de conserver nos traces pour l'histoire, c'est quelque chose qu'on connaît bien, mais c'est aussi important de, en temps réel, de ne pas oublier la diffusion immédiate. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on se construise, et c'est comme ça qu'on s'est construit nous-mêmes, individuellement, collectivement, c'est comme ça qu'on a construit nos forces. L'axe de mon intervention, c'est de dire que notre parole de bénévole, d'activiste, de militante, notre travail, notre bénévolat, est tout aussi fondamental dans l'histoire de la construction de l'histoire et de la construction des mouvements que le travail universitaire que je respecte profondément, qui est nécessaire aussi, mais je tiens vraiment en ce moment à souligner notre importance à nous les militantes. Voilà,
Et cette association a organisé une demi-journée de colloques sur les diverses questions que nous sommes amenés à traiter, comment mieux collecter, mieux préserver, les usages des archives dans la recherche, les archives numériques. Nous avons énormément de défis à relever. En même temps, le message est positif. Nous pouvons faire quelque chose. Hein. L'association Archives du Féminisme a été créée en 2001. Le Centre des Archives du Féminisme à l'Université d'Angers a collecté des dizaines de fonds de personnalités d'associations féministes. Ces fonds sont très utiles pour la recherche. Mais les défis à relever, c'est l'archivage du web, l'archivage de la troisième vague du féminisme et compléter autant que nous le pouvons les archives des féministes de la deuxième vague. C'est absolument essentiel pour la recherche. L'association Archives du Féminisme a bientôt 20 ans d'existence. Elle a un ancrage universitaire, hein, puisque l'Université d'Angers a créé un centre des archives du féminisme. Il y a également la collection Archives du Féminisme aux presses universitaires de Rennes, qui permet de valoriser en fait, les recherches issues de la consultation de ces fonds d'archives. Et on peut citer également Muséa, qui est un musée virtuel sur l'histoire des femmes et du genre. C'est une autre manière de valoriser les recherches basées sur les archives. Et Muséa donc, propose plusieurs expositions sur l'histoire du féminisme. Les nouvelles problématiques pour l'archivage concernent surtout le web, le féminisme qui s'exprime de manière nouvelle sur des blogs. Et là, la conservation est extrêmement limitante. On estime, et d'une manière générale pour le web, que seul 1% du web est préservé et sera préservé. Donc là, il y a toute une réflexion collective en fait, qui dépasse vraiment le milieu féministe ou des spécialistes d'études sur le genre.
Bobine Féministe, c'est un projet qui remonte déjà à quasiment 8-9 ans, un projet qu'on porte avec Nadia Ringard à l'occasion de la préparation des 40 ans du mouvement de libération des femmes, en fait c'était en 2009 précisément. On avait commencé à vouloir redocumenter et partager un certain nombre de films féministes, notamment tournés en vidéo légère par des militantes féministes des années 70. On trouvait que c'était une source incroyable pour restituer l'émotion, mais évidemment surtout l'expérimentation, l'inventivité formelle, l'expérimentation politique de cette époque, que c'était une manière de transmettre tout à fait exceptionnelle.
Companheira, me ajuda. Eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor.